Laudetur Jesus Christus.
Violence des guérillas en Colombie, plus de 80 morts près de la frontière vénézuélienne. L'église locale se mobilise pour venir en aide aux déplacés et appelle les groupes armés à mettre fin à ces violences. Nous entendrons l'évêque de Thibou dans la région. Opération militaire israélienne d'envergure en cours à Jenin en Cisjordanie. L'autorité palestinienne fait état de 8 morts et de 35 blessés. Nous serons avec notre correspondante à Jérusalem dans ce journal. En Israël, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche suscite de grandes attentes. Pour les familles d'otages, le dirigeant américain est perçu comme l'homme fort derrière la trêve à Gaza. Et puis dans ce journal, nous irons à Aksum, épicentre de l'église orthodoxe éthiopienne. Les 5 écoles de la ville sont convoquées devant la justice pour avoir interdit à des élèves musulmanes de porter le hijab en classe.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. 80 morts et 20 000 déplacés en moins d'une semaine. La région de Catatumbo au nord-est de la Colombie, frontalière au Venezuela, est le théâtre de violents affrontements entre guérillas armées. Depuis jeudi, l'ELN, l'armée de libération nationale, a engagé une offensive meurtrière pour éliminer son rival local, un groupe issu des FARC, les anciennes forces armées révolutionnaires de Colombie. Détention sous fond de narcotrafic. Les pourparlers de paix entre l'État et les groupes armés ont été suspendus et le président colombien a déclaré hier l'état d'urgence. L'évêque du diocèse de Thibou, Monseigneur Israël Bravo, témoigne du climat de peur qui règne dans la région. On l'écoute.
Des enfants, des familles désespérées, des personnes quittent le territoire. Il y a un déplacement massif vers la ville de Cúcuta, mais aussi des pertes de millions de dollars parce que les fermes et les animaux sont abandonnés. Bref, avec des maisons dont personne ne va plus s'occuper et un climat de désolation et de peur commence à se développer. En tant qu'Église, nous appelons les groupes armés à reprendre leurs esprits, à se rendre compte que nous tuer n'est pas la solution et qu'en versant plus de sang sur un territoire qui a toujours été taché par le sang d'hommes et de femmes innocentes ou moins innocents, comme le dit le livre de la Genèse, le sang de notre frère crie vers le ciel, nous comprenons que ce n'est pas la solution. Nous sommes ici en tant que pèlerins de l'espérance pour rencontrer Jésus-Christ avec les victimes de la violence, avec les victimes des conflits armés. Nous sommes ici en train de montrer la présence de l'Église et surtout de partager l'Évangile avec les plus pauvres.
Des propos recueillis par Johan Pacheco de la rédaction hispanophone de Radio Vatican. Et pour faire face à cette crise, le diocèse de Thibou accueille les personnes déplacées dans ses structures, notamment dans le centre Pape François, créé il y a quelques années pour s'occuper des migrants vénézuéliens. La question migratoire au cœur de la politique du nouveau président américain investi hier. Donald Trump compte s'attaquer aux droits d'asile et aux droits du sol. Premier effet concret, la plateforme de demande d'asile lancée par l'administration Biden a cessé de fonctionner. Donald Trump a également déclaré l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique et compte y déployer l'armée. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a lancé dans son habituelle conférence de presse matinale un appel à garder la tête froide face aux premières annonces. Autre inquiétude en Amérique centrale, l'avenir du canal du Panama qui relie Atlantique et Pacifique et que Donald Trump compte faire passer sous administration américaine, estimant que les navires de son pays y paient trop de taxes. L'archevêque de Panama réaffirme la souveraineté de son pays sur le canal, symbole d'identité nationale. Nous avons démontré notre capacité à gérer et à maintenir le canal ouvert au monde, explique-t-il. Quelle politique compte mener Donald Trump au Proche-Orient? Parmi le torrent de décrets signés hier dans la foulée de son investiture figure la fin des sanctions prises par son prédécesseur contre des colons israéliens coupables de violences en Cisjordanie, de quoi susciter l'indignation de l'autorité palestinienne. Côté israélien, son retour suscite de grandes attentes, notamment pour la libération des otages toujours retenus à Gaza. À Tel Aviv, Julia Galantia.
Les attentes sont grandes en Israël vis-à-vis du retour de Donald Trump, mais les défis sont également nombreux. Le gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou pourrait se retrouver à un carrefour diplomatique, pousser davantage pour l'annexion de la Cisjordanie au risque de ternir ses relations avec les pays arabes ou privilégier une stratégie plus pragmatique comme la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite. Le retour à la Maison-Blanche de Trump offrira sans doute à Israël un partenaire stratégique de poids, mais il devra aussi naviguer prudemment parmi les tensions internes et les défis géopolitiques qui se dessinent, notamment concernant l'Iran et Gaza. Le premier mandat de Donald Trump avait été marqué par une série de décisions très favorables à Israël. Le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et la conclusion des accords d'Abraham qui ont permis la normalisation des relations avec plusieurs pays arabes comme les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Des jalons importants de la politique de Donald Trump au Moyen-Orient. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
En attendant la trêve, bien que fragile, il se poursuit entre le Hamas et Israël. Le groupe islamiste palestinien a annoncé la libération de 4 nouveaux otages ce samedi et des centaines de camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza. Mais en Cisjordanie, la violence se poursuit. Israël a lancé ce mardi une opération militaire d'envergure à Jenin, bastion des groupes armés palestiniens. Elle vise à éradiquer le terrorisme, selon les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 8 personnes sont mortes, selon l'autorité palestinienne. Le gouvernement palestinien a mobilisé toutes ses ambassades, leur demandant d'intervenir auprès des pays hôtes afin d'exiger de mettre fin à l'opération israélienne. La correspondance à Jérusalem de Valérie Ferrand.
Le camp de réfugiés de Jenin est à nouveau totalement coupé du monde et cible des missiles israéliens, alors qu'au sol, chars, unités spéciales, snipers et membres des services secrets se sont déployés. Les bulldozers de l'armée ont parallèlement entrepris, comme à chaque opération militaire israélienne en Cisjordanie, de détruire les infrastructures civiles, notamment les réseaux d'eau et d'électricité. Parmi les dizaines de personnes blessées, on compte des médecins, des infirmiers, ainsi que des membres des services de sécurité palestiniens. Des unités de ces services avaient en effet été envoyées sur place ces dernières semaines pour mettre au pas les groupes armés attaquant régulièrement les forces d'occupation israéliennes dans cette région nord de la Cisjordanie, théâtre de multiples opérations militaires israéliennes meurtrières l'an dernier. Avant de lancer cette nouvelle offensive, Israël a renforcé son bouclage de ce territoire palestinien, bloquant totalement la circulation entre les villes notamment de Naplouse, Ramallah et Bethléem, alors que des groupes de colons intensifiaient ces dernières 24 heures, leurs attaques contre des villages. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'armée congolaise confirme une percée du groupe M23 à l'est de la République démocratique du Congo. La ville de Minova, dans la province du Sud-Kivu, est tombée lundi à l'aube aux armées antigouvernementales soutenues par le Rwanda. Minova était jusqu'ici un point de ravitaillement vers Goma, la capitale provinciale d'environ 1 million d'habitants, désormais quasi encerclée par les combats. On prend maintenant la direction du Tigré au nord de l'Éthiopie où se trouve la ville d'Aksoum, épicentre de l'église orthodoxe éthiopienne. Les autorités locales ont récemment banni le foulard islamique et des établissements scolaires, s'attirant les foudres du Conseil suprême des affaires islamiques régionales. Les précisions d'Augustine Passili depuis Addis Abeba.
À défaut de garantir la liberté d'expression, l'Éthiopie est un État laïque réputé pour respecter la liberté religieuse de ses citoyens. Les fêtes chrétiennes comme musulmanes sont ainsi des jours officiellement fériés. Mais dans la région du Tigré, au nord du pays, la ville d'Aksoum, considérée comme le berceau du christianisme éthiopien, fait exception à cette tolérance religieuse. Il est interdit d'y bâtir une mosquée, tandis que les musulmans doivent être enterrés à l'extérieur de la cité. Fin décembre, les autorités locales ont annoncé que les écolières musulmanes devraient désormais retirer leur hijab dans l'enceinte des établissements scolaires, avec pour conséquence la déscolarisation de ces dernières, qui s'ajoute aux 9 millions d'enfants qui ont dû abandonner l'école, notamment à cause des destructions liées à la guerre au Tigré entre 2020 et 2022 et des actuels conflits dans les régions Amhara et Oromia. Le 3 janvier, le Conseil suprême des affaires islamiques du Tigré a publié un communiqué assimilant cette décision à une violation des droits de l'homme qui contredit la Constitution. La crise politique et environnementale au Tigré est suffisante. Ouvrir une nouvelle porte à une crise religieuse pousserait la région de mal en pied, ajoutent les représentants musulmans. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et le Conseil suprême des affaires islamiques du Tigré a depuis porté plainte, ce qui a mené à la suspension de la mesure par le tribunal de district éthiopien. Les 5 écoles de la ville devront comparaître ce vendredi devant le tribunal pour répondre aux accusations.
Thank you.
c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité en langue française du pape, du Vatican, de l'Église et du monde revient demain 8h30, heure de Rome. Belle soirée à toutes et à tous en attendant.